Radio Okapi.
La journée du 8 mars n'a aucune signification pour les femmes de Butembo. Raison, dans cette partie de la RDC, la femme est égorgée au quotidien, dénudée, violée et victime de plusieurs violations de ses droits. Ces femmes demandent au chef de l'État de mettre fin au massacre dans cette région. Le coronavirus en voie d'être éradiqué à Boma, au Congo central. C'est en tout cas l'avis du maire de cette ville portuaire. Marie-Josée Nyongoswami explique qu'une semaine s'est écoulée sans une nouvelle contamination et sans aucun malade dans le centre de traitement de COVID-19 à Boma. Et puis, l'invité de ce matin, Eteni Longondo, ministre de la Santé publique, il explique comment la RDC a réceptionné les vaccins anti-COVID et comment le gouvernement compte assurer la couverture vaccinale dans tout le pays. Madame, Messieurs, bonjour. La femme de Butembo n'a pas la joie de célébrer la journée du 8 mars. C'est en ces termes que quelques femmes rencontrées par Radio Okapi ont réagi en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. D'après elles, dans cette partie de la RDC, la femme n'a plus de valeur. Elle est égorgée au quotidien, dénudée, violée et victime de plusieurs violations de ses droits. Avec ça, il n'y a donc pas le plaisir de célébrer la journée du 8 mars, ajoute-t-elle. Sadiki Aboubakar les a rencontrées.
Cette femme, communément appelée Mama Shekina, est vendeuse de beignets et du manioc grillé devant les écoles de la vallée de Kavaindi, dont la ville de Butembo. Pour elle, la journée du 8 mars n'a aucune signification. Ce qui lui importe, c'est son travail.
En tout cas, moi je ne vois pas en quoi cette célébration est importante. Tout ce qui m'importe, c'est mon travail. Pas ça, c'est du n'importe quoi. Moi je mange tôt du jour, alors je ne me vois pas perdre mon temps pour ça. Cela est réservé pour les femmes mariées, pas les femmes comme nous.
Gulen Selemoman est tenancière d'un restaurant sur l'avenue de l'Évêché. Pour elle, il est impossible de célébrer la journée du 8 mars quand on sait qu'en ces moments, il y a d'autres femmes qui sont en train d'être massacrées à Beni et en Ituri.
Le 8 mars, on le sait, c'est la journée internationale de la femme. Mais on n'a pas la joie de célébrer. Parce que d'autres femmes à ce moment sont dénudées, violées, massacrées. On ne peut pas fêter dans cette condition. En tout cas, la célébration ne se fait plus comme par le passé. Parce que nous devons soutenir les autres qui sont victimes des multiples violations de leurs droits.
Sa seule demande est que le chef de l'État fasse tout pour terminer le massacre dans cette région afin que la femme retrouve sa joie de vivre. Rappelons que depuis quelques années, la journée du 8 mars n'est plus célébrée avec faste dans la région comme par le passé. Butembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Entre-temps, à Beni, des femmes déplacées, bloquées dans certains hôpitaux de la ville, ont été libérées hier en marge de la célébration de la Journée des droits des femmes. C'est une initiative des femmes travaillant à la MONUSCO en collaboration avec le bureau Jean, Famille et Enfants de la ville de Beni. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Marc Marofimbo, reportage.
Quatre structures sanitaires de la ville de Beni ayant reçu les femmes déplacées en 7 du secteur de Rendjuri ont été ciblées par cet acte de charité de femmes de la ville de Beni. Il s'agit du centre de santé de Rwangoma, du centre hospitalier de Kasabignole, celui de Kasanga, du centre de santé de Malepe et l'hôpital général de référence de Beni. En plus d'honorer leurs factures, ces femmes ont également amené des effets de première nécessité aux mamans qui ont accouché dans ces structures sanitaires. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction.
Ils ont bien fait car la guerre nous menace. Nous le remercions. Les mamans sont nombreuses ici, à peu près 60. Nous, femmes déplacées, demandons qu'on nous libère gratuitement. Nous avons reçu l'épargne, des habits d'enfants, mais aussi ils ont honoré nos factures. Que Dieu les bénisse, ils ont vraiment bien fait.
Signalons que cet acte de charité a été posé par les femmes congolaises travaillant à la MONUSCO en collaboration avec le bureau urbain de genre, famille et enfants, les femmes de la police nationale congolaise ainsi que les femmes militaires de différents côtés genre de la MONUSCO basées à Beni. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Du côté de Bandundouville, la ministre provinciale du genre, famille et enfants dit déplorer le faible taux d'accès à la numérisation par la femme du Kwilu, situation consécutive selon elle par le fait que la province est beaucoup plus rurale. Esther Bamenga l'a dit à l'occasion du lancement officiel des activités liées au mois de mars. Elle promet d'intensifier des sensibilisations partout à travers la province. Esther Bamenga, ministre provinciale du genre, famille et enfants du Kwilu, s'exprime au micro de Irène Boma.
Le taux d'accès dans la province de Kwilu, qui est le cancer numérique, je sais que n'est pas vraiment trop élevé parce qu'il ne faut pas oublier que notre province est une province rurale. Donc, nous avons plus de femmes rurales. Mais maintenant, par rapport à cette année, nous allons faire un effort pour que nous puissions sensibiliser les femmes par rapport à la numérisation. Maintenant, par rapport à la numérisation, que nous allons sensibiliser parce qu'il y aura, avec le Covid, on n'aura pas l'occasion de rassembler beaucoup de femmes et nous allons passer des activités par Zoom à l'Internet. Mais nous voulons aussi que ça soit vraiment partout, même dans des territoires, même dans des villages, pour que la femme aussi puisse avoir son autonomisation. Je vais demander à la femme de ne pas baisser les bras. Nous nous rappelons que nous avons un combat qui n'est pas encore atteint. Tant qu'on n'a pas encore atteint vraiment le 50-50 avec l'égalité, nous allons continuer notre combat et je vais demander aux femmes de l'Internet, les postes de commandement, ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes.
Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, ici à Kinshasa, la ministre du Genre, Famille et Enfants a exhorté la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, venue participer à une cérémonie officielle, d'intercéder auprès du président de la République pour que cette fois-ci, la parité telle que consignée dans la Constitution soit respectée, notamment à travers des postes nominatifs, en commençant par ceux du prochain gouvernement. Écoutez plutôt la ministre d'État, Béatrice Lomea, dans ses propos recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Nous sommes effectivement au moment des enjeux où des postes vont être nominatifs. Ce n'est pas des postes électifs. Pour les postes électifs, nous disons aux femmes, nous devons nous battre au même titre que les hommes. Mais les postes nominatifs, maman, il faut être la gendarme derrière les chefs de l'État. Et c'est un vœu solennel. Nous avons suivi dans les messages du secrétaire général, lorsque les femmes sont nombreuses dans la gouvernance, les mesures de protection sociale sont nombreuses et la pauvreté régresse. Donc c'est vraiment avec raison que nous voulons que cette disposition soit d'application et donc nous espérons que dans les prochains gouvernements, dans les entreprises publiques, dans la diplomatie, dans toutes les autres structures, la représentation de la femme soit effective et que la parité soit respectée. C'est les pays qui vont en tirer bénéfice.
De son côté également, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Bintou Keïta, a plaidé pour la même cause. Elle a fait remarquer que la loi fixant le minimum de 30% de représentation de la femme dans les institutions publiques du pays n'est pas encore effective. Ainsi, pour elle, les discussions en cours pour la formation du futur gouvernement sont un moment clé qui permettra à la RDC de faire une grande avancée vers une meilleure représentation des femmes dans le respect de la loi. Par ailleurs, la première dame de la RDC, je le cite, encourage les femmes à demeurer positives, braves et fortes, fin de citation. Madame Denise Nyakeru a résumé son message en ce mois commémoratif des droits de la femme. L'épouse du chef de l'État l'a déclaré hier 8 mars après son échange avec le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qu'il a reçu en audience à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Madame Nyakeru a plaidé auprès du premier ministre pour la parité femmes-hommes dans la formation du futur gouvernement. Globalement, nous avons parlé de la participation des femmes au sein des différentes institutions, surtout au niveau des responsabilités de prise des décisions importantes du pays, a-t-elle soutenu. Province du Tanganyika, signalons la clôture le week-end passé de l'atelier de renforcement des capacités des encadreurs en alphabétisation. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet appelé « Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twa et Bantu dans le Tanganyika », la cible principale étant la femme et la jeune fille. Ce projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à travers les agences HCR, UNFPA et FAO. Il est exécuté par la Ligue Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL, le compte-rendu de Expedi Mwamba Mubi.
Apprendre à lire, écrire, calculer, bref, l'alphabétisation fonctionnelle. La LISADEL, ensemble avec le consortium HCR, UNFPA et FAO, ont retenu cela comme l'une des solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twa et Bantu dans la province du Tanganyika. Un atelier de renforcement des capacités des encadreurs en alphabétisation fonctionnelle vient d'être organisé du 4 au 6 mars courant dans quatre territoires de la province, Kalemi, Nyunzu, Manono et Moba. Au total, 40 encadreurs recrutés dans 40 localités ont bénéficié de la dite formation. L'objectif de ce recrutement est expliqué ici par Chirac Bouchinta, chef de projet à la LISADEL Tanganyika.
Transmettre la matière andragogique aux femmes et filles bénéficiaires de l'alphabétisation fonctionnelle. Ça va nous permettre à nos jeunes filles d'améliorer leur façon dans le quotidien, dans le but de réduire les inégalités socio-économiques. Ils vont apprendre les métiers, ils vont faire l'entrepreneuriat.
Ce projet d'alphabétisation fonctionnelle a une durée de 18 mois. Kalemi, expédie-moi Baboubi, Radio Okapi.
Santé. Au Nord Kivu, un mois après l'avènement de la 12e épidémie d'Ebola, la division provinciale de la santé antenne de Butembo a comptabilisé 11 cas positifs, dont 4 décès, 2 guérisons et 5 malades actifs suivis dans les centres de traitement Ebola. Ces chiffres ont été livrés par le docteur Nzanzu Salita, ministre provincial de la santé du Nord Kivu. C'était au cours d'un point de presse tenu hier. Il a à cette occasion appelé la population à accepter le prélèvement pour tout décès. Docteur Nzanzu Salita, au micro de Alicia Kapisa.
Donc aujourd'hui, ça fait exactement un mois que nous sommes en épidémie Ebola. Nous avons déjà enregistré 11 cas Ebola confirmés. Nous avons connu 4 décès. Nous avons enregistré 2 guérisons. Nous avons 5 malades actifs qui sont suivis. 4 à l'hôpital général de Katwa, où se trouvent les CTE, un au centre de santé de référence Masoya, où se trouve un deuxième CTE, là c'est dans la zone de santé de Biena, 500 et quelques contacts. Comme nous sommes en épidémie, nous voudrions que de tout décès soit effectué un prélèvement. Ça va nous rassurer que nous ne passons pas à côté des cas.
Santé toujours, je vous le disais en titre, le coronavirus s'envoie d'être éradiqué dans la ville de Boma, dans la province du Congo central. C'est ce qu'affirme le maire de Boma, Marie-Josée Nyongonswami, indique qu'une semaine s'est écoulée sans aucune nouvelle contamination dans la ville et sans aucun malade dans le centre de traitement de COVID-19 de Boma. Elle invite toutefois la population à continuer à respecter les gestes barrières. Le point avec Nana Plurish Mambou.
D'après Marie-Josée Nyongonswami, maire de la ville de Boma, une accalmie s'observe dans sa juridiction après une contamination en outrance ayant fait rebondir le taux des cas confirmés. Ceci avait placé la ville de Boma en première position en termes de nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le Congo central. À présent, le maire de Boma a indiqué que pour la deuxième vague, les cumuls de la situation épidémiologique COVID-19 dans la zone de santé de Boma est de 157 cas, dont 135 guéris, 11 décès. La même source indique qu'il n'y a aucun malade pris en charge dans les centres de traitement COVID-19 de Boma, 0 malade sous traitement à domicile, 7 malades ont été perdus de vue et 3 personnes ayant fait la forme sévère de COVID-19 ont été référées à Kinshasa. Pour Marie-Josée Nyongonswami, la chaîne de transmission se brise grâce à son engagement à accompagner les mesures contraignantes édictées par les autorités sanitaires pour stopper la propagation des coronavirus. Elle conclut en invitant la population de la ville de Boma au respect strict des gestes barrières pour éviter toute résurgence de coronavirus dans son entité. De Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Justice au Nord Kivu. Le ministère public requiert une peine de 3 mois de servitude pénale principale contre l'artiste musicien Idengo Delcato. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État, outrage aux députés nationaux et faux bruit dans sa chanson intitulée « Politicien escroc ». Plus de détails avec André Kitenge.
L'audience dans le procès contre le prévenu Idengo Delcato, auteur de la chanson « Politicien escroc », a eu lieu ce lundi dans la salle d'audience du tribunal de paix de Beni. 4 préventions ont été retenues à charge de cet artiste musicien. Il s'agit d'offense au chef de l'État, d'outrage aux députés nationaux, faux bruit et omission de présenter son œuvre à la commission des censures. Dans son réquisitoire, le ministère public a requis 3 mois de servitude pénale principale contre les prévenus pour les préventions d'outrage conformément à la loi et au paiement des frais d'instance et des dommages et intérêts. La défense dans sa plaidoirie a démontré au tribunal que les préventions retenues à charge du prévenu ainsi que les réquisitoires du ministère public sont non fondées. Maître Elie Vaoumawa, l'un du collège d'avocats conseil.
Le tribunal n'aura pas de choix que de libérer ces prévenus qui incarnent en fait l'âme de la population de Beni. Parce que ce qu'il a chanté est loin d'être une offense, mais ce n'est que juste des interprétations faites aux uns et aux autres au regard des promesses qu'ils avaient faites à la population bénitienne, meurtrie chaque jour. au regard du fait que les faits ne sont pas fondés, au regard du fondement, il n'y a aucune plainte comme élément préalable des poursuites, comme l'exige la loi.
Après la plaidoirie, la cause a été prise en délibéré et le verdict sera rendu le mercredi 10 mars prochain. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
La Côte d'Ivoire, toujours en attente de la proclamation totale des résultats des législatives du 6 mars. Entre-temps, le président Alassane Ouattara a nommé hier un nouveau premier ministre intérimaire. Il s'agit de Patrick Achi, ministre d'État qui remplace Ahmed Bakayoko, absent pour des raisons médicales, indique le communiqué de la présidence. Ces derniers mois, le premier ministre avait contracté le COVID-19 à deux reprises et souffert d'une grosse crise de paludisme. La semaine dernière, lors d'un dîner avec son homologue Emmanuel Macron à l'Élysée, le président ivoirien s'est dit préoccupé par l'état de santé d'Ahmed Bakayoko.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, explique les conditions dans lesquelles la RDC a réceptionné les vaccins contre le coronavirus et comment le gouvernement compte assurer la couverture vaccinale dans l'ensemble du pays. Il rassure également la population sur la qualité de ces vaccins reçus grâce à l'initiative COVAX. Le docteur Eteni Longondo s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La RDC est parmi les premiers pays d'Afrique à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Au moment où la question de la distribution équitable des vaccins dans le monde se pose avec sérieux, comment cela a-t-il été facile pour la République démocratique du Congo?
Bon, ce n'était pas du tout facile. Nous nous sommes engagés tout simplement dès les débuts, n'est-ce pas, quand on a commencé à vacciner en Europe, aux États-Unis, on s'est dit, voilà, on s'engage déjà parce qu'on savait que le vaccin, c'est le meilleur moyen pour lutter contre pas seulement la Covid, il y a aussi d'autres épidémies. Depuis décembre, on a pris des engagements. Après des études, des recommandations de nos scientifiques, nous nous sommes dit, voilà, c'est déjà 3 mois, le mois de mars, il faudrait qu'on puisse maintenant importer ces vaccins ici.
Alors ces vaccins sont approuvés par COVAX et expédiés par la même initiative. Alors c'est quoi l'initiative COVAX?
Ce vaccin sont non seulement approuvés par l'initiative COVAX, mais aussi par le scientifique congolais. Donc, on ne pouvait pas importer ces vaccins sans que nos équipes scientifiques puissent l'étudier. Alors, l'initiative COVAX, c'est au fait un projet qui est initié par le grand bailleur de fonds du monde, et le pays qui sont nantis, qui se sont dit, voilà, il faudrait qu'on puisse aider le monde entier dans la lutte contre cette pandémie qui dérange pas seulement le pays africain, mais beaucoup plus aussi le pays européen. Mais ils se sont mis d'accord pour créer cette initiative COVAX pour que tous les citoyens du monde puissent bénéficier de ce vaccin.
C'est un acte de générosité.
C'est un acte de générosité posé par nos amis.
N'a déboursé rien du tout.
En tout cas, pour les millions, on n'a rien déboursé, mais nous sommes en train de mobiliser des ressources parce qu'on n'a pas besoin seulement de 6 millions de doses. Vous savez, nous sommes à plus de 90 millions d'habitants ici et nous devons faire en sorte que nous puissions vacciner en tout cas presque tout le monde par les trois catégories qui sont à risque, les trois catégories de personnes à risque, notamment le personnel médical qui est en contact avec le malade à tout moment, il peut facilement être contaminé, le Congolais qui vivent avec des comorbidités, donc des hypertendus chroniques, des diabétiques, des obèses, ainsi de suite, mais aussi les personnes âgées de plus de 55 ans.
Ah, donc le pays s'est prononcé pour l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Pourquoi ce choix?
Ce n'est pas le seul choix. On s'est prononcé aussi pour l'utilisation de vaccins russes, Sputnik V. On s'est prononcé aussi pour l'utilisation de vaccins chinois. Donc, ce choix, c'est après étude, après recommandation de nos scientifiques.
Ce n'est pas du poison?
Ce n'est pas du poison.
Les puissances ne veulent pas éliminer, décimer la planète?
Non, ce n'est pas ça. Si on voulait décimer la planète, on n'allait pas attendre la Covid ici. Tous les produits que nous prenons ici, le médicament, tout ça, ça ne vient pas du Congo, ça vient d'ailleurs. Et si ce pays-là avait envie d'empoisonner les Congolais ou d'empoisonner les Africains, comme on le dit, ou de les rendre stériles, ils allaient déjà le faire. N'est-ce pas? Nous avons des antibiotiques qui sont fabriqués dans ces pays-là. Ils pouvaient introduire déjà depuis des années, quelque chose dans ces antibiotiques-là pour que le Congolais ne puisse pas mettre au monde ou les Africains ne puissent pas mettre au monde. Il faudrait qu'on ne puisse pas suivre ces rumeurs-là. Nous sommes devant une réalité.
Alors, quand est-ce que démarre la vaccination proprement dite et quels sont les sites qui sont choisis?
Oui, la vaccination commence à la fin de la semaine, donc vers le 12 mars, et les sites seront publiés au début de la semaine. Donc, nous sommes en train de nous préparer. Question de la chaîne de froid, je crois que nous avons un dépôt pharmaceutique de l'État congolais moderne à Maluku. Et je vous invite un jour d'aller là-bas pour faire un reportage. Donc, nous avons 13 chambres froides et qui peuvent conserver n'importe quel vaccin. Donc, il y a des chambres froides qui vont jusqu'à moins de 25 degrés. Donc, avec ce vaccin ici, on le conserve à partir de quoi? Je crois de 2 à 8 degrés. Mais nous avons la capacité de les conserver. Donc, moi-même, je suis allé, quand j'ai réceptionné le vaccin, je suis allé visiter cette chambre froide. Vraiment, c'est une chambre ou des chambres froides modernes. Et dans les prochaines semaines, nous allons réceptionner d'autres doses, de sorte que au mois de mai, nous aurons les 6 millions de doses. Et puis après le mois de mai, il y aura le gouvernement qui va intervenir pour acheter des vaccins. Et puis il y a aussi le Russe qui nous ont proposé des millions et des millions de vaccins.
Docteur Eteni Logondo, merci d'avoir voulu nous accorder cet entretien.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Le ministre de la Santé publique répondait aux questions de J.R. Lungembo Luabung Anji. Il sera également l'invité de Parole aux auditeurs tout à l'heure à 13h, heure de Kinshasa. Ainsi prend fin ce journal coordonné et supervisé par Alain Rung Mushinj. Merci de votre attention.